Europe 1.
Il est clair, madame, que nous ne serons d'accord sur rien.
15h, 16h sur Europe 1.
Vous attaquerons la tombée de la nuit.
Historiquement vôtre.
Là, Sotéa !
Molière, il faudrait reprendre.
A successor to the kings and queens of history.
On va écouter donc comment on le fait chaque fois, madame Soleil. Le principe, c'est simple. On lui donne votre jour de naissance, votre heure de naissance. On lui dit pas qui vous êtes.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme chaque jour à 15h et pendant une heure. Je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi, parfois en passant sous les radars. Des personnages, mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée ou des événements marquants et que j'ai choisi de vous raconter. Oui, cet après-midi, à l'occasion de la sortie d'un film qui lui est tout entier consacré, je vous raconte un groupe de danseuses et de danseurs aussi d'ailleurs, liés à la cour du roi qui fut une véritable chambre d'écho des sursauts de la grande histoire, classée aujourd'hui au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ou la véritable histoire du ballet royal du Cambodge. En quoi la danse classique mère résume-t-elle la culture cambodgienne? Comment Auguste Rodin a-t-il contribué au rayonnement du ballet royal du Cambodge? Quel lien existe entre l'art et l'identité? Pour répondre à ces questions et bien d'autres encore, j'ai le plaisir d'accueillir le cinéaste qui retrace l'incroyable histoire du ballet royal dans son nouveau film qui sort aujourd'hui même en salle. Bonjour Xavier de Lausanne.
Bonjour.
Xavier de Lausanne, votre film s'appelle « La beauté du geste ». Le geste, c'est celui qui fait la beauté, plus encore la légende, de ce ballet royal du Cambodge. Comment vous décririez ce geste? Qu'est-ce qu'il a d'unique? Et à travers lui, qu'est-ce que vous souhaitez montrer aux spectateurs qui viendront voir le film?
C'est à la fois un geste qui est assez mal connu en France, qui est le geste de la danse classique khmer, qui est un geste extrêmement gracieux, extrêmement souple, qui demande aussi une vraie technique. Mais on va au-delà du geste proprement dit. En fait, c'est aussi le geste de l'histoire à travers ce ballet royal qui traverse une époque turbulente et qui a tenté de survivre.
Et qui a survécu miraculeusement presque.
Qui a survécu au pire, en fait, et qui a survécu grâce aux survivants, aux artistes survivants. Mmh. 90% des artistes ont été tués lors du génocide Khmer Rouge, et 10% sont restés pour relever ce ballet royal.
La beauté du geste, c'est un geste qui est extrêmement codifié et traditionnel, n'est-ce pas?
Oui, en fait, c'est ce que j'ai voulu expliquer dans le film, c'est-à-dire que tout a un sens, et nous, occidentaux, ne sommes pas cambodgiens, ne sommes pas khmers, et donc avoir accès à la signification de ce geste n'est pas une évidence. Mais en fait, ça, c'est un peu comme du théâtre dansé, chaque geste a un sens, et le film permet de comprendre ce sens-là.
La beauté du geste sort donc aujourd'hui même. On va continuer à en parler ensemble, Xavier de Lausanne, juste après mon récit.
Europe 1,
15h, 16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Je les ai contemplées en extase. Quand elles partirent, je fus dans l'ombre et le froid. Je crus qu'elles emportaient la beauté du monde. Tels sont les mots d'Auguste Rodin lorsqu'il découvre en 1906 à l'exposition universelle de Marseille le spectacle des danseuses cambodgiennes du ballet royal accompagnant le roi Sisovath dans sa visite en France. Subjugué par la beauté de cette danse, jusqu'alors quasiment inconnue en Europe, le sculpteur va capturer les danseuses sur le vif, réalisant en 4 jours plus de 150 esquisses. Toutes sont croquées de façon isolée, indépendamment du corps du ballet, comme pour suggérer leur singularité. Le trait figure le mouvement, sans se soucier du détail de leur costume, stylisé ici par un chapeau pointu, là par quelques rares épaulettes. Qu'importe le support, un papier d'emballage glacé marron acheté à la hâte chez un épicier de la ville ou un journal, pourvu que Rodin ait l'ivresse. Celle d'être confronté à des formes de beauté inédites et à des mouvements qui le transportent, au point qu'il retrouve, à 66 printemps, l'énergie d'un jeune homme. Je sens bien qu'à les regarder, ma vision s'est élargie. J'ai vu plus haut et plus loin. Enfin, j'ai appris, confiera-t-il. Qu'est-ce qui, dans les gestes des danseuses du ballet royal du Cambodge, a tant pu fasciner le sculpteur au point de lui agrandir le regard? La question se pose d'autant plus que le sculpteur, en ce début du XXe siècle, en connaît un rayon sur la danse. Elle a d'ailleurs une place essentielle dans son œuvre et se conjugue sous toutes ses formes. Classique, folklorique et même exotique. Rodin s'étant déjà notamment intéressé aux danseuses javanaises à l'occasion de l'exposition universelle de Paris en 1889. Mais là, à Marseille, et quelques jours avant, à Paris, au théâtre du Pré-Catelan où les danseuses du Ballet Royal du Cambodge se produisent pour la première fois en dehors des frontières de leur pays, Rodin n'est pas simplement face à un nouveau motif. Attiré par leur mouvement d'extension extrême et de redressement dans un flux évoquant les ondulations du serpent, captivé par les flexions de leurs membres et par la géométrie parfaite de leurs mains, le sculpteur rencontre un idéal de beauté qui lui évoque celui de la Grèce antique. Un regard qui détonne dans une époque coloniale où les arts indochinois sont souvent réduits à des curiosités exotiques quand ils ne sont pas instrumentalisés dans la course au prestige entre puissances coloniales. Une rencontre avec l'universel qui en dit long aussi sur la majesté et le raffinement de cet art millénaire que porte le Ballet Royal cambodgien, dont les prémices sont encore visibles aujourd'hui sur les bas-reliefs d'Angkor. De la pierre à la chair, la frontière semble bien mince entre la posture des 1700 apsaras, gardiennes des temples-montagnes d'Angkor, et celle des danseuses du Ballet Royal du Cambodge d'aujourd'hui. En effet, malgré les siècles qui les séparent, l'expression impassible du visage et les mouvements des mains où se touchent le pouce et l'index sont semblables et semblent promises à l'éternité. Les sculptures des danseuses des bas-reliefs angkoriens datant du 7e siècle sont les témoignages matériels les plus anciens qui attestent de l'existence de la danse dans la vie culturelle du pays qu'on appelle aujourd'hui le Cambodge. Investie d'un rôle sacré et symbolique, la danse fonde très tôt l'identité khmer et incarne les valeurs de raffinement, de respect et de spiritualité. Véritable messagère des rois auprès des dieux et des ancêtres, les danseuses du harem royal participent aux cérémonies officielles du palais en contribuant au prestige du royaume khmer. Ainsi, la danse royale se fixe à la période angkorienne, un peu comme en France où 10 siècles plus tard, la danse de cour, qui est à l'origine de la danse classique, se verra codifiée à Versailles par Louis XIV. Mais il faut attendre le milieu du XIXe siècle et le règne du roi Hang Dong pour que cette danse royale cambodgienne se déploie. Présenté comme un véritable rénovateur des arts de la cour, c'est à lui que va échoir la difficile tâche de tracer les contours de la danse royale, notamment en la distinguant des danses voisines du royaume du Siam. C'est avec le protectorat français instauré en 1863 que des documents nous informent plus précisément sur le fonctionnement du Ballet Royal qui est sans conteste la troupe de danse la plus réputée du pays. Elle est alors exclusivement féminine. Celles qu'on appellerait chez nous « petits rats » sont là-bas soit des princesses, soit des jeunes filles offertes au roi par leur famille en signe d'allégeance. Des familles qui en retour peuvent espérer recevoir une protection de la cour et voir s'élever leur statut social. Car oui, une fois qu'elles ont mis le pied au palais, les danseuses du corps ballet sont considérées comme des serviteurs de la cour où elles vivent et se produisent pour honorer et légitimer le roi. Toujours présentes aux cérémonies, elles dansent aussi dans des soirées royales où sont reçus des invités de marque, souvent des gouverneurs ou des représentants étrangers. Leur répertoire, très inspiré des mythes khmers, se décline autour de 4 personnages. Les personnages féminins, comme les apsaras, ces fameuses nymphes célestes ondoyantes à la beauté étourdissante, les princesses, les sirènes ou encore les femmes oiseaux. Deuxième catégorie, les personnages masculins reconnaissables à leurs épaulettes et à leurs pantalons de soie aux 1000 plis. Enfin, les 2 dernières catégories, toujours masquées, recouvrent les personnages démoniaques, souvent figurés par les géants, et les personnages simiens, les singes autrement dit, que l'on reconnaît à leur queue en tissu. Au cœur de l'architecture chorégraphique, il y a le geste délicat, minimaliste et infiniment subtil. La cambrure longuement travaillée de leurs mains et de leurs pieds, véritable langage qui se déploie dans un temps irréel, presque immobile. Un spectacle qui ne peut s'exécuter autrement qu'en musique, accompagné par l'orchestre Pumpit, où se rencontrent harmonieusement xylophone aérien, gong cristallin, tambour, flûte, hautbois et cymbalette, dans un flux sonore aussi apaisant qu'un bruit de source, comme vous pouvez l'entendre. Évidemment, cette quête de perfection ne va pas sans sueur et sacrifice, avec une concurrence exacerbée entre les danseuses pour remporter les faveurs des souverains. Les élus qui réussissent à devenir concubines ou épouses ont une réelle influence sur les affaires du royaume et d'autant plus lorsqu'elles donnent naissance à des enfants. D'après certains historiens, leur pouvoir était tel que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le protectorat cherche, au début du XXe siècle, à réduire le budget alloué à la cour afin d'augmenter sa propre mainmise sur le royaume. Car le balai, au-delà de la beauté qu'il renferme, est bien un instrument de prestige. Tout comme les danses de l'Inde et de Java pour les empires britanniques et néerlandais, la danse de cour cambodgienne représente pour la France coloniale, au même titre que les ruines d'Angkor, le vestige d'un passé dont le potentiel peut être mis au profit dans la lutte d'influence entre les empires coloniaux. Un trésor d'un peuple que les Français colonialistes considèrent comme incapable de préserver sans l'intervention de la France civilisatrice. C'est dans le contexte de la promotion de cette entreprise coloniale qu'à la demande du gouvernement français, le balai du roi Sisovat est sollicité pour la première fois à se produire hors du royaume en tant que divertissement scénique. C'est l'exposition universelle de 1906 dont le sculpteur Rodin, tout comme notre presse nationale, ressortiront ébahis. Un spectacle dont le succès se répétera en 1937 à l'occasion d'une nouvelle exposition universelle, toujours à Paris. Alors que le balai est célébré comme joyau de la réussite de la politique coloniale, quelques observateurs lucides, comme l'artiste et scientifique français Georges Grolier, ont conscience de sa fragilité. Ce dernier entreprend en 1927 de répertorier toutes les postures de la danse royale lors d'une longue séance photo. Pressentait-il le sombre nuage des Khmers rouges qui va menacer, quelques décennies plus tard, le ballet royal Khmer? En attendant, l'indépendance du Cambodge proclamée en 1953 fait souffler un vent nouveau sur les arts et sur le ballet royal en particulier. Alors que l'économie s'engage dans une période faste et que le pays s'émancipe avec succès de 91 années de colonialisme, justifiant alors son surnom d'île de la paix, la troupe, elle, va connaître de grandes métamorphoses sous le règne de la reine-mère Sisovat Kosamak. Inspirée par les pratiques occidentales, la reine révolutionne d'abord l'espace scénique du ballet en le surélevant et en le rendant frontal, rompant avec la tradition où les danseuses étaient à la hauteur du public qui pouvait les contempler de face, mais aussi sur les côtés de la scène. Autre changement introduit par la reine Sisovat Kosomak, la standardisation des gestes avec une volonté de fixer certaines postures dans une amplitude moins importante que par le passé. Ainsi, les danseuses sont tenues par exemple de placer leurs bras moins haut par rapport à leur visage et à adopter un jeu plus subtil dans leur penchée. Au niveau purement esthétique, la reine-mère enlève la couche épaisse de poudre blanche qui recouvrait jusqu'alors le visage des danseuses pour laisser éclore leur expressivité. Aussi, le ballet, jusqu'alors uniquement réservé aux femmes, s'ouvre-t-il aux hommes pour les rôles de singes qui deviennent plus athlétiques. Et aussi, il se démocratise. La reine ayant à cœur d'ouvrir la cour à tous les jeunes souhaitant apprendre la danse royale. C'est aussi à l'époque de la reine Kosamak qu'un personnage clé va connaître son envol. Celui de l'Apsara, cette créature mythologique serpentine représentée sur scène par un costume flamboyant, une tiare gigantesque à trois pointes, une large collerette ouvragée et une ceinture assortie aux dimensions tout aussi imposantes. Ce costume, personne ne va mieux le porter que la danseuse Bofa Devi, qui n'est autre que la fille du chef de l'État de l'époque, Norodom Sihanouk, et surtout la petite-fille de la reine-mère. Avec sa beauté irradiante, c'est elle qui, en 1962, dans la peau de ce personnage, va éblouir le public de l'Oiseau de Paradis, réalisé par Marcel Camus, avant de fouler la scène de l'Opéra de Paris le 25 juin 1964, devant un général de Gaulle extatique. Ce soir-là, après le défilé du corps de ballet parisien et une bourrée fantasque, elle mène la danse des apsaras spécialement créée dans le pur style classique par Sa Majesté la Reine. En bleu, blanc et rouge, les somptueux costumes brodés d'or et d'argent scintillent au rythme grelottant de l'orchestre Pimpeat. Si la princesse Bofa Devi a connu et incarné le ballet royal à son firmament, elle va hélas traverser avec lui ses heures les plus obscures. En 1970, la République khmère est instaurée par le général Lon Nol et cela se transforme rapidement en guerre civile. Si le ballet royal réduit à l'appellation danse classique lui survit, il va être décimé avec l'arrivée du dictateur Pol Pot et des Khmers rouges au pouvoir en 1975. Il s'agit alors pour le régime pro-communiste de faire table rase du passé et de gommer tout ce qui relève, selon eux, de l'ordre féodal. Les artistes qu'ils considèrent comme appartenant au clan de l'oppresseur sont alors les premiers visés. Ils sont chassés dans la plus grande violence quand ils ne sont pas exécutés, après avoir été exploités dans des camps de travaux forcés. Pour sauver sa peau, il faut soit prendre la route de l'exil, soit dissimuler son identité. Les musiciens cachent leurs instruments dans des lieux où les autorités n'auraient pas idée d'aller les chercher, allant parfois jusqu'à les enterrer. Quant au corps du ballet royal, il se réinvente sous différentes identités. Comme la danseuse Pen Sokwon, dont notre invité, le réalisateur Xavier de Lausanne, a recueilli le témoignage dans La beauté du geste, le magnifique film qu'il consacre au ballet royal du Cambodge. Elle raconte...
À Battambang, ils nous ont mis au milieu de la forêt. On était dans la forêt, on n'avait plus de maison. On a dû couper des arbres pour construire une cabane. On avait juste des feuilles pour faire les murs et un abri. Je devais cacher mon histoire. Quand on me demandait mon métier, je disais que j'étais tailleuse. Je faisais des vêtements. Je ne disais pas que j'étais artiste. Si j'avais dit la vérité, on m'aurait tué.
En 5 ans, les Khmers rouges annihilent ce qu'une civilisation a mis des siècles à bâtir. Le bilan est sanglant. Seuls 10% des artistes survivent au massacre. Le ballet royal subit dans les mêmes proportions cet anéantissement. Comment a-t-il gardé en mémoire le répertoire sans pouvoir ni jouer, ni chanter, ni danser ? Comment cette tradition qui repose sur une transmission orale a-t-elle pu survivre au génocide ? Au cœur des ténèbres, lors des rares pauses que les danseuses s'octroient dans des camps de travaux forcés, elles s'assouplissent et esquissent en cachette quelques mouvements qu'elles prolongent en pensée seulement, en imaginant le jour où, si elles gardent la vie, elles retrouveront la scène. Et la libération arrive enfin. Après 4 longues années, le régime Khmer Rouge est chassé de Phnom Penh au début de l'année 1979 par l'invasion vietnamienne du Cambodge. Le ballet royal, lui, est exsangue, comme l'ensemble des arts classiques et populaires du pays. Disséminé dans l'espace, divisé entre ceux qui ont subi l'horreur des camps et ceux qui ont pu s'exiler sur d'autres terres, en particulier aux États-Unis où de nombreuses danseuses y ont trouvé refuge, le corps du ballet est aux abois. Mais le peuple cambodgien, étant un peuple d'artistes, ou du reste un peuple qui aime les arts, comme le souligne Prong Chieng, l'un des plus grands artisans de sa reconstruction, et il va se mobiliser comme jamais pour faire renaître de ses cendres le ballet royal à l'orée des années 1980. D'ailleurs, l'histoire de Prong Chieng, danseur devenu maître puis directeur de l'école des beaux-arts, résume à elle seule la splendeur, le déclin puis le renouveau que connaît le ballet dans la seconde moitié du XXe siècle. Initié avec sa sœur par sa grand-mère, maîtresse de danse, dans le ballet de la reine-mère Koh Samak, il excelle à partir des années 1960 dans les rôles de singe. Il a 30 ans quand Pol Pot prend le pouvoir. Forcé de quitter Phnom Penh, il prend seul la route de l'exil vers la Corée. À son retour en 1979, il apprend que sa sœur fait partie des 2 millions de victimes du génocide perpétré par les Khmers rouges. Accablé par cette terrible disparition, il croise alors Cheng Phan, un ancien camarade singe comme lui, dans la ville de Kampantom, à 150 km au nord de la capitale, et a créé une école d'art, la Colonie des Arts. Son ami, qui deviendra ni plus ni moins ministre de la Culture dans les années 1990, le pousse alors à reprendre la danse classique. Ainsi, à travers des écoles qui se développent en province sur les ruines des camps de réfugiés, le ballet se reforme par petits îlots. Les retrouvailles entre les survivants ont une intensité à la mesure des coups terribles portés par l'histoire et sa grande hache. On tombait dans les bras les uns des autres, se souvient Prong Cheng. On pleurait, on se souvenait. On ne trouvait plus les mots, nos larmes remplaçaient les mots. Passé l'émotion vive des retrouvailles, peu à peu, la mémoire des gestes, des chants et de la musique revient grâce aux souvenirs de chacun. Souvent, par bribes, un danseur se rappelle quelques gestes, aidé par un musicien qui, à son tour, se remémore un bout d'une partition dont une danseuse déroule ensuite les mouvements, reconstituant ainsi le puzzle du répertoire. À Phnom Penh, où le ballet ne reviendra plus jamais dans l'enceinte du Palais Royal, une école des beaux-arts se constitue sous le patronage de Pro Heng Chien, avec les survivants et leurs descendants. Les élèves sont pour la plupart des orphelins, orphelins de père, orphelins de mère, parfois les deux. Les maîtres de cette école, qui est dirigée par Pro Heng Chien, doivent reprendre à zéro les 10 années d'apprentissage nécessaires à la formation d'un danseur classique, avec le trésor d'une mémoire qu'ils sont peu nombreux à pouvoir transmettre. En 1989 ouvre l'Université royale de Phnom Penh, une institution qui achève de redonner un cadre officiel au ballet royal. Les élèves, après leur formation de base à l'École des beaux-arts, enchaînent avec 4 ans à l'université et en ressortent après plus de 10 ans avec un niveau professionnel qui leur permet d'évoluer dans le corps de ballet. 2 ans plus tard, le roi Norodom Sihanouk retrouve son pays et son palais après des années de déchirures politiques. Une cérémonie est organisée au théâtre sur Amarit. Sa fille, Bofa Devi, interprète Tep Monorom, l'une des danses préférées de son père. Après, elle n'a plus jamais dansé. En revanche, c'est elle qui va continuer à faire danser le ballet. Nous nous sommes comptés, il restait 30 de survivantes, constate-t-elle à son retour en 1991. Au cours de la décennie qui suit, elle donne une nouvelle impulsion à la troupe, en repensant les costumes, les coiffes et les maquillages. Elle souhaite, comme sa grand-mère, la reine Sisovat, redonner vie aux gracieuses Apsara de Grès, danseuses célestes qui animent le temple d'Angkor Wat. Ses nouvelles chorégraphies voyagent de New York à Tokyo, de Hong Kong jusqu'en Europe. En 1994, le Ballet Royal est de retour à Paris sur la scène du Théâtre du Rond-Point. Cette invitation, qui s'est faite à l'initiative de la Maison des Cultures du Monde, symbolise sa renaissance officielle. Bofa Devi, propulsée ministre de la Culture et des Beaux-Arts du Cambodge de 1999 à 2004, continue d'œuvrer sans relâche auprès de la troupe. C'est elle qui, en 2003, monte le dossier qui fera entrer le Ballet Royal du Cambodge au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Son inscription officielle par l'UNESCO a lieu en 2008. Le Ballet Royal rejoint la prestigieuse liste des trésors qu'il faut absolument préserver au même titre que les arts de la céramique en Ouzbékistan ou le flamenco en Espagne. Toujours dans cet esprit de préservation et consciente que la transmission orale de cet art l'expose à l'oubli, Bofa Devi réalise en août 2019 une vidéo de chacune des postures du répertoire du Ballet Royal afin d'établir une base de données qui soit la référence de la danse classique khmer. Hélas, 3 mois plus tard, elle décède. Mais le ballet, lui, va une nouvelle fois survivre à la mort d'une de ses plus grandes étoiles, mais aussi à celle qui l'a fait renaître de ses cendres. Oui, mais ce joyau de la culture cambodgienne qui a survécu à la chute d'Angkor, à la colonisation française, puis au massacre des Khmers Rouges, est aujourd'hui un trésor fragile. Malgré son inscription au patrimoine immatériel de l'humanité, il n'a plus la magnificence et le prestige dont il jouissait lorsqu'il était établi au Palais Royal. Tiens justement, remontons le temps, l'espace d'un instant. Nous sommes en 1899 à Phnom Penh devant le Palais Royal. Devant la caméra de Gabriel Vert, chef opérateur des Frères Lumière, deux danseuses cambodgiennes du roi Norodom II miment un combat à l'épée. Leurs gestes lents et précis sont capturés en noir et blanc pendant 53 secondes. C'est l'un des premiers films de l'histoire du cinéma. Que le mouvement des danseuses cambodgiennes ait captivé les inventeurs du cinéma comme des artistes aussi majeurs, je vous le racontais au début de mon récit que le sculpteur Auguste Rodin au début du XXe siècle, n'est pas anodin. Le style lent et méditatif de la troupe du Ballet Royal cambodgien est unique par son alternance quasi hypnotique entre immobilité et mouvement. Lorsque le ballet évolue sur scène, il juxtapose en effet de grands mouvements engagés, souvent par les jambes, comme tourner, marcher, s'agenouiller, et des moments où les danseuses restent sur place, les bras souvent en hypertension, effectuant avec les mains et les pieds de petits gestes dont la cambrure semble surnaturelle. Au-delà de la technique pure qui n'a rien à envier à la danse classique occidentale, il y a dans le ballet royal khmer quelque chose d'un art total, mariant la danse à la musique mais également à la poésie et à la littérature traditionnelle, le répertoire allant puisant dans la mythologie khmer. Hélas, aujourd'hui parfois réduite à une attraction touristique qui n'a plus rien de royal dans les restaurants de Phnom Penh où la danse des apsaras hypnotise des voyageurs aussi naïfs que médusés, la danse classique khmer continue heureusement d'être enseignée dans les règles de l'art à l'école et à l'Université des Beaux-Arts de Phnom Penh. Elle continue aussi de s'expatrier dans le monde entier dans le cadre de tournées d'exception. La dernière en date, en France, a eu lieu en 2018 lorsque le Ballet Royal a fait salle comble deux soirs de suite à la Cité de la Musique de Paris avec Métamorphose, une création hommage à Rodin. Ce qui frappe désormais, à bien observer la jeune génération des danseuses du Ballet Royal, c'est un retour au style ample ancestral avec des mouvements larges et majestueux, comme si le Ballet Royal ne pouvait évoluer que dans un éternel retour au passé, dans une révérence perpétuelle aux gestes millénaires des danseuses sculptées pour l'éternité sur les bas-reliefs d'Angkor.
Europe 1, historiquement vôtre.
Xavier de Lausanne, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Si vous avez décidé de raconter dans un film l'histoire du Ballet Royal du Cambodge, c'est parce qu'on y trouve quelque chose d'universel. En quoi cette histoire parle à chacun de nous ?
Ben oui, en fait, ça m'intéressait de traiter cette histoire, pas parce qu'elle parle seulement du Cambodge, en fait. Déjà, parce qu'on a un lien très fort en tant que Français avec le Ballet Royal, à commencer par Rodin, mais tout au long de l'histoire, comme vous l'avez rappelé dans ce très très beau récit. Mais au-delà de ça, en fait, cette histoire touche des sujets qui sont très actuels, qui sont autour de la question de l'art et l'identité. C'est-à-dire, à savoir... comment l'art peut servir de socle lors d'une reconstruction identitaire, la reconstruction identitaire d'une nation après un conflit majeur ou après une guerre. On sait qu'aujourd'hui, malheureusement, des pays qui traversent des guerres, il y en a quelques-uns, et chaque guerre a la faculté de détruire en quelque sorte l'identité du peuple qui subit cette guerre. Parce que chaque nation est plurielle, est composée de plusieurs communautés, et donc les guerres divisent les communautés et détruisent ce qui fait l'ADN de la société et donc l'identité. Et après, il faut reconstruire, il faut des outils pour ça. Et les outils, c'est pas la politique, c'est pas le business, mais la plupart du temps, c'est l'art.
Xavier de Lausanne, dans votre film « La beauté du geste », aujourd'hui en salle, vous racontez le processus de création du dernier spectacle de la princesse Bofa Devi, Métamorphose, et en parallèle, l'histoire du Ballet Royal du Cambodge depuis 1906. Nous sommes à la radio, alors c'est toujours difficile évidemment à la radio de décrire ces mouvements, ces gestes qui caractérisent la danse classique khmer. Comment peut-on faire ?
Ah oui, pour les décrire. Oui, c'est difficile de les décrire, mais c'est pour ça que Rodin a eu une vraie fascination pour ce geste, parce qu'il était totalement inconnu, justement, en Europe, et qui correspondait à aucun code de nous, de la manière dont on danse, nous. La manière dont on conçoit la danse, et la manière dont on reçoit les émotions à travers la danse. Là, c'est complètement différent. L'idée du mouvement, n'est pas exprimé du tout de la même façon. C'est une danse lente, c'est une danse en suspension où c'est la grâce et la fluidité qui comptent. Et c'est hallucinant de voir à quel point justement cette grâce et cette fluidité peut exprimer une certaine forme de dynamisme aussi.
Mais le geste des danseuses devient un véritable langage. Chaque mouvement même de la main, du pied... veut dire quelque chose.
Oui, parce que la danse classique khmer, c'est du théâtre dansé, en fait. Donc il y a une histoire derrière, et qui est très souvent tirée du Ramayana, qui est donc le mythe fondateur du royaume du Cambodge. Et donc, du coup, les gestes racontent l'histoire. Et les gestes ont chacun une signification, un sens, que les khmers connaissent, mais moins nous.
En 1906, j'ai raconté, Rodin a immortalisé les gestes des danseuses cambodgiennes sur 150 aquarelles. Et un siècle après, ce sont ces 150 aquarelles qui ont inspiré la princesse Bofa Devi alors qu'elle imaginait le spectacle Métamorphose, n'est-ce pas ?
Oui, métamorphose qui était inspirée. Alors, elle s'est détachée du mythe du Ramayana parce qu'elle s'est inspirée du mythe de Psyché.
Oui.
Voilà. Donc, on est dans une autre histoire, et c'est ce qu'elle a voulu faire, un pont en fait entre l'histoire du Cambodge et puis un mythe grec aussi, et en passant par Rodin.
Mais c'est vrai que ces aquarelles, ces 150 aquarelles de Rodin, ont contribué à faire rayonner la danse classique khmère par-delà les frontières du Cambodge aussi.
Ah oui, alors c'est très amusant en fait, ces aquarelles. Déjà, on connaît tous l'œuvre de Rodin, mais on connaît Rodin en tant que sculpteur, on connaît moins Rodin en tant que peintre. Et ces aquarelles, il ne faut pas croire que c'était une œuvre mineure pour Rodin, c'était une œuvre absolument majeure. Il a été ébloui, c'était au moment où il commençait à s'ennuyer un peu dans sa vie, il faisait beaucoup de commandes, il était déjà très connu, etc. Et donc quand il a découvert ces danseuses, ça l'a mais complètement fasciné. Et donc, comme vous avez cité quelques phrases qu'il a dit, il a beaucoup écrit, beaucoup dit aussi, et c'était une œuvre pour lui absolument majeure. Et c'est amusant en fait, en montrant le film là, parce que je suis en train de faire une tournée partout en France, et il y a régulièrement des gens qui me disent, mais moi j'ai des représentations de ces aquarelles de Rodin, mais je ne connaissais pas du tout l'histoire, j'ai trouvé très belle, donc je les mets dans mon salon, mais je ne connais pas du tout l'histoire qu'il y a derrière. Voilà.
Vous poursuivez l'œuvre de Rodin finalement en immortalisant à votre tour, la danse classique khmère, comment filmer le mouvement et saisir la beauté du geste par l'image?
Ben, c'est très simple en fait, c'est qu'à partir du moment où vous donnez sens à quelque chose, ben, cette chose devient belle en fait. C'est pas que de la beauté plastique en fait, c'est la beauté du geste, c'est l'expression aussi, c'est... On fait quelque chose par des intéressements, et c'est ce qui se passe là. Si on maintient un art, en fait, par des intéressements, c'est pas cet art-là qui va vous rendre riche, et c'est pas les danseuses qui sont au Cambodge et qui perpétuent cette tradition, qui sont très riches. Mais c'est la question de la beauté du geste, justement. C'est la beauté du geste, premier degré de l'expression, et puis la beauté du geste, du fait de maintenir cet art et tout ce qu'il y a derrière.
Xavier de Lausanne, votre film La beauté du geste est sorti au Cambodge en avril 2023. Et y a rencontré un vif succès. Est-ce qu'il a contribué à la redécouverte par les jeunes Khmers de leur propre histoire?
Oui, c'était très étonnant. Il est sorti en avril, effectivement, dernier. Et c'était le premier long-métrage documentaire qui bénéficiait d'une sortie nationale au Cambodge. Donc c'était vraiment une toute nouvelle expérience. Les Cambodgiens n'ont pas l'habitude d'aller voir du documentaire en salle. Or, ça a très bien marché. Et ça a très bien marché, notamment auprès des jeunes. On pensait que c'était plutôt les générations anciennes qui allaient venir. En fait, pas du tout. Ce sont les jeunes qui sont venus. Parce que aujourd'hui, les jeunes, ils se posent une question simple. Enfin, pas très simple en fait, qui est qu'est-ce que c'est être cambodgien? Après ce que le pays a traversé, ils sont véritablement en quête d'identité. En fait, ils se posent des questions sur leur passé. Ils sont pas forcément, ils n'ont pas beaucoup de connaissances sur l'histoire. Et d'ailleurs, ils pensent que, alors. Cette danse-là, elle est très imprégnée dans la société cambodgienne, elle fait vraiment partie de l'ADN de la société cambodgienne, mais en fait, ils connaissent peu l'histoire et ils pensent que la danseuse Apsara a toujours existé. Or, la danseuse Apsara, comme vous l'avez rappelé dans le récit, elle a été créée dans les années 60. Avant, c'était le ballet royal qui était confiné à l'intérieur du palais royal, mais qui n'avait pas de lien avec les bas-reliefs du temple d'Angkor. Et en fait, ce lien avec les bas-reliefs des temples d'Angkor, l'imitation des Apsara, elle a été créée par la reine Kosama, qui était donc la mère du roi Sihanouk dans les années 60 pour glorifier le ballet, pour lui donner de plus d'envergure et puis en faire aussi un instrument de rayonnement national.
Pour autant, la famille royale a toujours protégé le ballet royal cambodgien. D'ailleurs, les princesses avaient le privilège pendant très longtemps, comme je l'ai rappelé, de le danser. Comment la famille royale a réagi au succès de votre film?
Ils étaient très très émus parce que c'est une partie de leur histoire et puis surtout
il y a la princesse Bofa-Lévi qui est décédée depuis.
Exactement.
Et donc, évidemment, ça a ravivé des souvenirs.
Exactement. Et d'ailleurs, on a fait une très très belle avant-première à Phnom Penh avec la présence de Sa Majesté le Roi et qui était extrêmement ému et notamment qui m'a dit à quel point il était ému de voir sa sœur puisque le film aussi témoigne de son travail et des derniers instants en fait de son travail et de ses créations.
Ce que votre film raconte, c'est aussi le rôle de l'art dans la reconstruction, vous le disiez, d'une identité après avoir été. Enfin, il y a quelque chose de miraculeux quand on suit comme ça la vie de ces danseurs et de ces danseuses qui ont tout perdu sauf la vie, mais pour certains seulement.
Oui, c'est en fait c'est très touchant de voir que même au cœur de la destruction, même au cœur de la barbarie, en fait la question de l'art et la question de l'identité reste. Et donc je vous parlais d'identité, les Cambodgiens après le génocide Khmer Rouge, il y a une diaspora qui s'est éparpillée un peu partout dans le monde et les Cambodgiens se demandaient vraiment quel allait être l'avenir. Et ils se sont tous, pour beaucoup, cristallisés autour de la question de la danse. C'est-à-dire remettre à flot, justement, cette danse-là était absolument nécessaire. C'était une toute première étape, en fait, pour eux, pour se réapproprier cette identité et ce qu'il y avait de plus beau dans le pays. Après être passé par la laideur absolue, il fallait absolument retrouver du beau pour survivre.
Dans le film, on suit aussi deux jeunes danseuses qui ont obtenu les premiers rôles dans la dernière création de la princesse Bofa Devi. Que représente ce spectacle pour elles? C'est-à-dire, au-delà de l'accomplissement personnel, professionnel, il y a l'idée chez elles de perpétuer cette tradition et de continuer à la faire vivre.
Oui, pour ces jeunes filles-là, c'est une véritable passion. Et donc, elles sont très conscientes, en fait, et elles le disent dans le film, elles sont toutes jeunes, elles ont la vingtaine, elles sont très consciente en fait de l'importance de l'art pour construire la nation. Les jeunes cambodgiens aujourd'hui, ils veulent construire leur nation, ils veulent faire rayonner leur nation, et ils sont conscients que l'art joue un rôle important. Et donc ces jeunes filles là, pour elles se sont appropriées cette tradition là et elles dansent aujourd'hui, mais elles savent qu'elles vont pas pouvoir danser forcément très très longtemps. À 30 ans, c'est déjà plus difficile d'être dans des spectacles et tout. Et donc elles savent que leur rôle après, ça sera la transmission. Ça fait vraiment partie de leur volonté de transmettre. C'est à leur tour, en fait, de transmettre cette tradition-là.
En France, le film sort donc aujourd'hui en salle, mais la sortie nationale a été précédée d'une longue tournée dans de nombreuses villes où vous avez été présenter le film. Qu'est-ce qui a le plus interpellé les spectateurs face à cette histoire, finalement, assez méconnue de la survivance du ballet royal Le Khmer?
Ben, c'est deux choses en fait. C'est la découverte. C'est découvrir un pays déjà autrement, parce que le Cambodge, on en parle toujours à travers un prisme assez négatif. Il n'y a pas que la question des Khmers rouges, la corruption, la pauvreté et le trafic humain. Il y a aussi la beauté de la culture. C'est un art extrêmement riche dans sa culture, avec des arts qui sont florissants. Et en fait, le film permet de, je crois, montre aux spectateurs, va leur permettre de redécouvrir ou de conserver leur capacité d'émerveillement. Voilà, on s'émerveille en fait à travers l'histoire d'un pays et qui est vu non pas à travers un prisme politique mais à travers un prisme artistique. Voilà, cette capacité d'émerveillement et puis de voir la beauté aussi. Les gens ont besoin du beau aujourd'hui, je crois. Et puis aussi, encore une fois, la question majeure aujourd'hui qui est le rapport entre l'art et l'identité. C'est un point très fort sur lequel se cristallisent aussi beaucoup de spectateurs.
La tournée s'est conclue par une projection à la maison de l'UNESCO à Paris. Ce lieu est symbolique, évidemment, parce que le ballet Khmer est inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO.
Oui, alors on a démarré la tournée au musée Guimet à Paris, et puis on l'a terminée effectivement à l'UNESCO par une grande soirée avec plus de 1000 personnes, et c'était un moment absolument magnifique. Et évidemment, ces deux lieux-là, je voudrais vraiment entre ces deux lieux, là, on a tourné dans tous les cinémas, etc., mais je voulais vraiment encadrer justement cette tournée-là par deux lieux à la symbolique très forte par rapport à cet art et au Ballet Royal.
Votre film rappelle les liens aussi entre la France et le Cambodge. Comment la France, ancienne puissance coloniale, est-elle aujourd'hui perçue au Cambodge? Évidemment, il n'y a pas eu d'effusion de sang au moment où la France s'est retirée. On peut rappeler que récemment encore, le Premier ministre cambodgien a fait ériger, en quelque sorte, le monument aux morts pour les Français. Ça a l'air de bien se passer entre la France et le Cambodge.
Oui, en fait, y a un lien très privilégié qui reste entre la France et le Cambodge. On a eu un passé commun, évidemment, mais un passé aussi qui s'est, révélé par la conservation des arts et notamment la présence française dans les temples d'Angkor. Ça a été extrêmement important. Et il y a des traditions qui restent, que ce soit culinaire. Il y a aussi beaucoup d'échanges entre les universités au niveau de la médecine, au niveau de la justice, etc. Donc il y a, c'est un peu comme au Vietnam. Il y a un lien en fait qui persiste au fil du temps. Et en ce qui concerne le Ballet Royal, évidemment, la France a eu un rôle très fort. Et il faut rappeler que c'est aussi notre raison, on n'en est pas forcément conscient, mais vous savez, des arts traditionnels dans le monde qui disparaissent, il y en a plein en fait, sans que ça émeuve qui que ce soit. Et pourquoi il y en a qui disparaissent pas? Parce qu'ils sont reconnus au-delà des frontières. Et c'est pour ça que l'importance de la reconnaissance de l'UNESCO notamment est primordiale, parce que quand un art traditionnel à l'autre bout du monde est reconnu au-delà de ses frontières, ça fait en sorte qu'il puisse ne pas disparaître lors d'une crise.
Et alors, est-ce que vous avez, depuis votre film, est-ce qu'il y a un renouveau à l'École Royale et puis à l'Université des Beaux-Arts de Phnom Penh de jeunes qui demandent à faire l'apprentissage du Ballet Royal Khmer?
Oui, le film a eu un impact très fort au Cambodge, et aujourd'hui il y a non seulement un renouveau, mais beaucoup de jeunes aussi qui demandent à apprendre la danse du temps de Rodin. Du temps du roi de Sisovat qui est venu en France en 1906. Voilà, parce que les codes, comme vous l'avez dit, n'étaient pas les mêmes. Donc il y a un retour sur le passé. Et maintenant, on voit des spectacles avec des jeunes filles qui sont fardées de blanc, ce qui est tout nouveau et qui date à la fois de cette tournée de la princesse Bupa Devi et de la sortie du film.
Mais merci beaucoup, Xavier de Lausanne, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire du Ballet Royal du Cambodge. Je rappelle que votre film documentaire La beauté du geste, qui est vraiment magnifique, hein, il faut le dire,
est
bouleversant aussi, hein,
je remercie beaucoup.
Sort aujourd'hui même dans toutes les salles au cinéma.
Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.